nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est à la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Je suis avec ma complice et lectrice Émilie et avec Richard. Nous aurons un entretien téléphonique exceptionnel et exclusif avec un grand intellectuel israélien, Shlomo Sand. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que pour Palestine 13, si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement. www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités et documents de fond ainsi que pages historiques, culturelles ou sportives. Vous y trouverez des pétitions, des appels à participer aux campagnes nationales ou internationales comme celle en cours contre Puma. Puma, le sponsor de l'OM, honte à lui, car il est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes, illégales. Car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Sur notre site, dans la rubrique Agenda, vous trouverez les dates et lieux des actions à venir à Marseille, à Martigues et dans notre département autour de la question palestinienne, qu'il s'agisse de films, de rencontres ou d'autres événements. Je vous rappelle www.assopalestine13.org et page Facebook Palestine 13. Il y en a beaucoup en ce moment et je vous invite à les consulter. Mais je voulais juste souligner la chance que nous avons, puisque l'IREMO, l'Institut de recherche d'études méditerranéennes et Moyen-Orient, implanté à Paris, lance des activités d'IREMO Sud à Marseille. Pour la région Sud, pour son équipe, dirigée par notre ami Jean-Paul Chanoulot, il s'agira, je le cite, de traiter des grandes questions géopolitiques, culturelles et sociales de Méditerranée et du Moyen-Orient en convoquant les savoirs académiques engagés, en invitant des personnalités issues du champ universitaire, politique, médiatique et culturel des deux rives de la Méditerranée. Nous avons vraiment de la chance. Ce lancement, ce sera le samedi 8 octobre 2022, de 14h à 21h, à la salle de conférence de la bibliothèque régionale de l'Alcazar, au 58 rue Courbelzins, à Marseille. C'est gratuit, ce sera passionnant sans doute, et il faut s'y rendre nombreux. Une autre information, la veille, le 7, vous avez un agenda très, très chargé, l'inauguration d'une boutique de nos amis de Fixouk. Alors ce sera au 12 place Alexandre Labadie, donc c'est près des réformés, et ce sera une boutique de produits palestiniens, de céramique, de verre, des bronzes, de produits alimentaires, huile d'olive, zaatar, dattes. Et ce sera ouvert du mardi au samedi. Voilà. Alors, avant de démarrer, un mot sur les chansons qui vont égayer cette émission. Je demande toujours à mes invités de choisir des chansons. Quand ils oublient, bien sûr, je ne dis rien et je choisis dans ma playlist préférée. Mais aujourd'hui, mon invité a choisi des chansons et je vais demander à Shlomo Sand de nous dire pour quelles sont les chansons qu'il a choisies et pourquoi il a choisi ces chansons.
Parce que du chanson, nous ne sommes pas nationalistes ni nationales, et il exprime la volonté, le désir de certains internationalismes ou cosmopolitisme que j'adopte dans mes positions sur le monde actuel.
Et donc, dites-nous quelle chanson c'est, parce que je ne les ai pas annoncées à nos auditeurs.
Ah oui, c'est de l'international. et qui est très connue parce que c'est une chanson d'origine française, et Bella Ciao, qui tout le monde connaît aussi.
Merci, Shlomo Sand. Donc, vous êtes en direct de Tel Aviv, vous êtes notre invité, et je vais vous demander de vous présenter. Mais avant, hein, vous avez écrit, je vais dire un mot, hein, je vais dire quelques mots avant. Donc, nous avons vraiment aimé vos ouvrages, hein, en particulier Comment le peuple juif fut inventé, écrit en 2008, et nous nous sommes prêtés, entre militants de Palestine 13, votre roman policier, entre guillemets, La mort du Khazar rouge, avec le commissaire Émile Mourcus, un des rares hauts gradés arabes de la police israélienne. Un roman qui se passe dans un monde universitaire dans lequel le présent convoque un passé bien éloigné de l'histoire officielle. Et alors là, nous sommes aujourd'hui ce soir pour parler de votre dernier ouvrage, Une brève histoire mondiale de la gauche. Vous l'avez écrit pendant la pandémie de Covid. C'est un ouvrage théorique et historique, mais bien ancré dans le présent. Et alors, avant de vous donner la parole, je fais languir nos auditeurs. Je propose qu'Émilie nous lise le début de votre ouvrage et ensuite vous nous direz pourquoi cet ouvrage, pourquoi ce livre maintenant et pourquoi finalement cette introduction si personnelle. Émilie, à toi.
Introduction. L'égalité comme mythe actif moderne. L'égalité est donc à la fois la chose la plus naturelle et en même temps la plus chimérique. Voltaire, Égalité, Dictionnaire philosophique 1764. Je suis né à gauche. Mon père a été communiste sa vie durant et il espérait que je mette mes pas dans les siens. C'est pourquoi il m'a très tôt inscrit au mouvement de la jeunesse communiste israélienne. J'ai grandi à Jaffa, l'indigente, dans les années 1950, qui ont vu la montée de l'anticommunisme en Israël. Tous les 1er mai, je défilais en chemise blanche et écharpe rouge. Au milieu de la foule, j'étais morte d'inquiétude d'être repérée par des garçons de ma classe, dont je savais qu'ils me harcèleraient ensuite à l'école. Mais le fait de marcher aux côtés d'autres garçons et filles, et notamment d'une d'entre elles, dont j'étais amoureux, atténuer quelque peu mes craintes, et je me sentais alors l'âme d'un petit héros. En vérité, le garçon que j'étais à cette époque lointaine vit encore au fond de moi. Et pourtant, dès 1968, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie m'a amené à rompre tout lien avec le mouvement communiste. Puis la prise de conscience des terribles effets des révolutions du XXe siècle ne m'a évidemment pas encouragée à m'en rapprocher à nouveau. Et cependant, je continue de penser en homme de gauche. Une partie des défauts, et peut-être quelques-unes des qualités de mes écrits, me ramènent à mes positions initiales, auxquelles je ne suis pas disposée à renoncer. Malgré toutes les déceptions engendrées par les dévoiements et les échecs des luttes sociales du XXe siècle, le gouffre demeure béant entre l'univers des valeurs qui anime la gauche, dans toute sa diversité, et celui qui nourrit toutes les droites. J'ai grandi dans une famille aux revenus modestes. Ma mère était femme de ménage et mon père veilleur de nuit. À 16 ans, j'ai dû interrompre mes études pour devenir travailleur manuel jusqu'à mon service militaire. Et ce n'est qu'à 24 ans que j'ai décidé de passer mon baccalauréat et de m'inscrire à l'université. Puis, après avoir obtenu un doctorat, j'ai décroché un poste de maître de conférence qui m'a permis d'enseigner et de faire de la recherche. J'espère que le fait d'avoir côtoyé des membres de la classe ouvrière et été proche de plusieurs courants de la gauche organisée m'ont immunisé contre une idéalisation de mes sujets de recherche. Après des années d'enseignement à l'université de Tel Aviv, devenue professeur émérite, je bénéficie des avantages matériels de la classe moyenne. N'étant pas malgré tout disposé à oublier mon passé, je reste conscient que la plupart des êtres humains se trouvent dans une situation bien plus pénible que la mienne et se battent durement, au quotidien, pour améliorer leur vie et celle de leurs enfants. À l'heure où j'écris ces lignes, j'apprends dans la presse que la moitié de la population mondiale survit avec moins de 5 dollars par jour. La plupart d'entre nous ne croisons jamais ces personnes. Ce n'est nullement le fait du hasard. Non loin de mon domicile vit un peuple dont les droits civils fondamentaux, politiques et sociaux sont niés depuis 54 ans. Ces Palestiniens, nous ne les apercevons quasiment jamais. Et lorsqu'ils parviennent, souvent en tant qu'ouvriers du bâtiment, à travailler en Israël contre un salaire de misère, ils sont généralement transparents ou invisibles, perchés sur des échafaudages. On n'entend parler d'eux que lorsqu'ils en tombent et s'écrasent sur le trottoir. C'est de là, entre autres, que vient mon attention permanente et partiale à l'histoire sociale et ses expressions politiques. Le philosophe britannique Bertrand Russell a affirmé qu'un homme sans préjugés, si tant est que cela existe, ne peut pas écrire une histoire intéressante. Je partage totalement ce point de vue.
Donc Émilie vient de nous lire le début de votre livre, Une vraie histoire mondiale de la gauche. Shlomo Sand, pouvez-vous vous dire pourquoi ce livre, pourquoi maintenant et pourquoi cette introduction si personnelle ?
Et je vais commencer peut-être avec les dernières questions. Pourquoi c'est une production personnelle ? Parce que avec toutes les crises que j'ai passées politiques à travers toute ma vie, j'ai resté un homme de gauche. Donc écrire un livre sur la gauche, j'ai senti le besoin de dévoiler mes intentions, mes biographies très courtes sur mes débuts de l'intérêt à la politique. Donc, je reste à gauche. C'est la raison, avec toutes les critiques que j'ai à gauche, je pensais qu'il faut dévoiler ça. Vous savez, si j'aurais écrit un livre sur Jules César, je ne crois pas que j'aurais mis cette introduction personnelle. Mais ce n'est pas Jules César, mais c'est la gauche mondiale jusqu'à l'actuel moment. Donc, j'ai senti le besoin de dévoiler et moi-même. Ça, c'est pour la première question. Et brève histoire, parce que personne n'a pas écrit jusqu'à maintenant une histoire générale sur la gauche mondiale. J'ai senti le besoin, le moment est venu, de commencer à synthétiser justement cette variété de gauche à travers les 200 dernières années. Et c'est la raison que j'ai décidé d'oser d'écrire une grande synthèse qui, je suis sûr que pas tout le monde sera d'accord avec ces positions que j'exprime face à la déroulement des affaires qui ont concerné la gauche. Ça, pour répondre à la première question. Je ne me rappelle pas les troisièmes questions.
Et alors, pourquoi aujourd'hui ce livre, qu'est-ce qu'il contient?
Ah oui, aujourd'hui.
Voilà.
Tout à fait. Peut-être que c'est la question la plus importante. Parce que je pense que nous trouvons aujourd'hui, en début du 21e siècle, dans une situation très difficile à propos de l'existence, du progrès de la gauche mondiale. Et on sent aujourd'hui une certaine crise profonde. Ce n'est pas la première fois que la gauche passe des crises, mais cette fois, il y a un sentiment que quelque chose ne marche pas. Ça veut dire, si vous voulez, l'idéologie, les mythes qui ont concerné toujours les buts de la gauche se trouvent aujourd'hui dans un embarras très, très profond. Donc, j'ai osé d'utiliser le mot mythe parce que je pense que des grands mouvements ont toujours des grands mythes. Et voilà, la gauche, avec toutes ses variétés, a eu beaucoup de mythes. Et je crois que nous sommes actuellement dans une situation de crise profonde. Parce que si les conflits sociaux continuent partout, si les luttes des peuples, des classes continuent toujours, ça ne traduit pas ni à des mouvements, larges mouvements de gauche, ni des partis politiques, ni des programmes, etc. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'éclats et des conflits, mais on n'a pas, ce n'est pas traduit à des mouvements sociaux larges, organisés, etc. Donc, je posais la question, pourquoi? Qu'est-ce que ça arrive que les Gilets jaunes ou les printemps arabes ou beaucoup de contestations, même en Israël, ne sont pas traduits à des mouvements et qui ont continué à exister après le conflit. Voilà, c'est la raison que j'ai décidé d'interroger justement l'histoire et moi-même sur la question Est-ce que la gauche n'a pas arrivé à ce moment-là devant un grand problème? Et si le grand moteur de la gauche, pour mon analyse, était le désir d'égalité, je crois que cette égalité qui a fait vivre la gauche à travers 200 ans se trouve aujourd'hui un grand problème. Est-ce que l'égalité, le désir, la volonté d'égalité continue à être le moteur justement de notre vie sociale et politique? Voilà.
Merci beaucoup. C'est vrai que votre livre est passionnant et c'est une histoire mondiale que vous proposez qui est passionnante pour nous qui sommes habitués à voir l'histoire avec notre lorgnette occidentale. Comment placez-vous l'histoire de... Parce que nous sommes à l'émission Une heure en Palestine. Et donc, comment vous placez, par rapport à votre livre et par rapport à toute cette évolution, l'histoire d'Israël dans cette évolution au long cours? C'est une méchante...
J'ai dévoilé mes motivations personnelles, mais ce n'est pas seulement personnel. C'est-à-dire, en Israël aujourd'hui, et la gauche a toutes ses couleurs, se trouve dans un recul, il a reculé partout, les gauches sionistes, les gauches non sionistes, les gauches arabes, nous sommes tous dans un embarras très très fort parce que quelque chose ne marche pas. Et côté palestinien aussi, le grand mouvement, si vous voulez, laïque et démocratique de gauche, ont reculé aussi. Ni le Front populaire, ni le Front démocratique, ni le Parti du peuple, communisme, ne sont pas aujourd'hui présents vraiment dans la lutte et sous la scène de cette révolte permanente palestinienne. Donc, je posais ces questions. Qu'est-ce qui se passe avec la gauche? Surtout parce que je viens justement d'une situation, d'un recul incroyable de la gauche israélienne. Voilà.
Merci.
Et bientôt, et pas seulement ça, bientôt il y aura des élections. Seulement 4 semaines, il y aura des élections en Israël. Et c'est la première fois qu'il y a un danger tellement grand d'une droite musclée, religieuse, parce que la symbiose entre la religion et le nationalisme aujourd'hui est très fort partout, et en Israël aussi. Cette semaine, on a vu aussi en Italie.
Ben oui.
Et
en Suède.
Voilà, donc, je crois qu'il faut réfléchir devant cette réalité et ne pas mentir à nous-mêmes. Voilà.
En France, j'ai vu un article dans l'Humanité et un dans la Pensée, mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup de débats suite à votre livre. Est-ce que dans d'autres pays ou est-ce qu'en Israël, il y en a eu? Est-ce que votre pensée est reprise, retravaillée?
Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas compris tellement. C'est-à-dire, le livre est paru pour le moment en hébreu, en Israël, et en français, en France. Ça va apparaître en Espagne, ça va apparaître en Angleterre. Et la question pour moi était pourquoi le livre n'était pas, n'était pas dévoilé par les... Même Mediapart, qui est considéré comme un journal de gauche, n'a pas écrit un mot sur le livre. Maintenant, ni les autres journaux, sauf l'Humanité.
Et la Pensée, oui. Ouais.
C'est vrai aussi que je ne suis pas venu à Paris pour diffuser à cette époque, j'étais un peu malade, donc je ne suis pas venu pour diffuser le livre. Mais revenir en Israël, le livre a reçu un accueil incroyable. Ah. Je ne crois pas qu'il y avait un autre livre qui a reçu en début un accueil tellement favorable et dont le journal Haaretz, j'étais à la une, par exemple, avec ce livre. Et même celui qui aujourd'hui est Premier ministre m'a écrit une lettre privée à propos de ce livre et j'ai eu aussi des échos de beaucoup de journalistes. Donc, je ne comprends pas la différence entre Israël et la France. J'ai pu avancer quelques théories, mais je préfère de ne pas faire ça.
Ah bon. Alors, allez, on va se remonter le moral, on va se passer Bella Ciao. Sidi, mets-nous Bella Ciao, s'il te plaît.
Pardon, je n'ai pas compris.
Ah non, je demande à Sidi de nous mettre Bella Ciao. Pardon.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Oh là là, merci Shlomo d'avoir choisi cette chanson, ça fait du bien. Bon, alors je continue mes interrogations personnelles et puis après... moi, en lisant ce livre, je me disais que c'était une histoire mondiale que vous proposez et c'est vraiment passionnant. Et je me disais, l'histoire, c'est aussi des idées, des courants de pensée, des évolutions et des événements bref, court, et c'est aussi des hommes, et c'est toujours le risque quand on fait de la géopolitique de voir des grandes tendances, quoi. Et j'avais envie de vous demander à vous, enfin des hommes et des femmes, hein, des connus, des opprimés. Allô ?
Allô ?
Oui. Je vous demandais dans votre panthéon personnel, vous mettriez qui ? Quel homme ? Quelle femme ?
Je n'ai pas compris.
Dans vos héros, je vous demandais vos héros, hein, parce que finalement vous parlez de mouvement, de courant, d'évolution, et j'avais envie de vous demander quels sont vos héros, entre guillemets, quels sont vos... Dans toutes les références que vous notez, quelles sont vos références préférées en matière d'hommes et de femmes de gauche ?
Dans l'histoire, en
général. Dans l'histoire, bien sûr, oui. Dans votre histoire universelle, oui. Votre histoire mondiale de la gauche.
Oui, donc très tôt, comme j'étais à l'époque où j'étais dans un mouvement gauchiste à la fin des années 60, et on a rigolé sur moi parce que j'ai eu une affiche dans ma chambre de Rosa Luxembourg. Oh. Et elle a resté pour moi comme l'étoile qui m'a guidé beaucoup dans les crises que je suis passé politique. Rosa Luxembourg, cette dame qui s'opposait à la Première Guerre mondiale avec un courage incroyable et qui était assassinée par l'extrême droite assez tôt. Voilà. Donc Rosa Luxembourg comme un personnage qui m'a guidé à certaines époques. Et si vous voulez aussi des historiens de gauche qui m'ont impressionné beaucoup comme Eric Hobsbawm, qui je l'ai connu. Et aussi, vous savez, j'étais en France, donc je faisais en France une maîtrise et un doctorat. Et la maîtrise était dirigée par Madeleine Rebériou, une autre historienne qui était très proche de moi, et beaucoup des autres. Du point de vue des hommes politiques, si vous voulez, je faisais mon maîtrise sur Jean Jaurès. Ah, bon. Qui était un héros à certains moments pour moi. Et voilà, donc pour rappeler toutes les gens que j'admirais dans l'histoire du socialisme, bien sûr, il y a des personnages comme et Marx, Proudhon, beaucoup d'autres, Kropotkin et Sorel. Et j'ai, à certains points, j'étais très proche de. J'ai eu grande sympathie envers le syndicalisme révolutionnaire, par exemple.
D'accord.
Avec des personnages qui ont guidé le syndicalisme révolutionnaire avant la Première Guerre mondiale. Voilà.
Ah ben, bah écoutez, on a beaucoup de points communs là, tous là. Et je voulais vous demander finalement dans vos. Dans ces citations, moi j'aurais rajouté par exemple François Fanon ou d'autres. Dans votre livre, vous parlez beaucoup du colonialisme. Est-ce que vous pouvez nous repositionner ce colonialisme qui nous a tous touchés et au niveau mondial dans cette histoire, dans votre histoire des gauches, de la gauche?
Le colonialisme, oui. Vous avez parlé sur le colonialisme.
Oui,
oui. Je me trouve dans une situation coloniale aujourd'hui. Je crois que après 55 ans, on peut définir les présences d'Israël dans les Cisjordanie comme une situation coloniale classique. Peut-être c'est une des rares situations coloniales qui a resté dans le monde au début du 21e siècle. Et est-ce que c'est apartheid ou non? Je peux hésiter, mais il n'y a pas de doute que c'est une situation coloniale qui se trouve aujourd'hui. Et cette situation coloniale, avec toutes les guerres qu'on a passées, j'ai participé à deux guerres, a fait que l'anticolonialisme était pour moi une motivation très très forte et dès la fin des années 60. Et je reste jusqu'à aujourd'hui anticolonialiste, évidemment, parce que je suis plus en plus pour la proposition de transférer les Israël et Palestine à un État binational, parce qu'il n'y a pas une autre solution, à mon avis, pour approcher les deux peuples ici. Mais je voulais ajouter à propos de l'anticolonialisme, je crois que la gauche était parfois, comment dire, trop gentille sur beaucoup d'expressions des mouvements anticoloniaux. C'est-à-dire, nous avons trop pardonné, nous avons trop négligé les effets inégalitaires que l'anticolonialisme apportait et surtout les effets des droits civiques, liberté, pluralisme politique, etc., que les mouvements anticoloniaux n'ont pas apporté avec eux, ni droits de l'homme, ni liberté, et ni beaucoup d'autres choses. Donc, je reste toujours un anticolonialiste, mais je crois que nous devons faire le grand travail pour ne pas avoir d'illusions sur cette grande révolution anticoloniale qui s'est déroulée de la deuxième moitié du XXe siècle.
Merci, Slomo.
Est-ce que vous avez entendu les choses que je dis?
Oui, très, très bien. On entend très bien. C'est vraiment très intéressant. Richard va vous poser une question, Slomo. Vous le connaissez bien, donc je pense qu'il va poser une question.
Oui, Slomo, un peu dans la suite de ce que tu viens de dire, et qu'on avait abordé lors de ton passage à la librairie Maupetit il y a quelques semaines. La question de l'imaginaire social dans les pays post-coloniaux que tu traites dans ton livre, dans un des chapitres, et en particulier dans les pays arabes, tu parles d'un affrontement entre, moi j'appelle ça un affrontement, mais pas nécessairement, entre l'idée nationale et les traditions religieuses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Chomo?
Oui, c'est-à-dire, nous sommes témoins aujourd'hui, avec cette faiblesse mondiale de la gauche et avec cette faiblesse mondiale de laïcité, qu'il y a plus en plus une symbiose entre religion et nationalisme. Voilà, dans le monde arabe, qui autrefois il y a des mouvements très forts de gauche, des mouvements démocratiques laïcs. Par exemple, en Irak, autrefois, le plus grand mouvement était le Parti communiste irakien. Et en Iran, par exemple, le Touda, le Parti communiste iranien, était le plus grand. Donc, on voit dans le monde arabe, qui me concerne comme israélien, un grand recul des mouvements nationaux laïcs et plutôt à gauche. Et on voit que tout est remplacé presque partout par des mouvements qui font synthèse, ces synthèses et religion avec nationalisme. Je peux dire que sur le plan politique, j'ai rien contre la religion. Je ne suis pas laïcard comme vous parlez en France. Mais je m'inquiète beaucoup la synthèse, la symbiose entre religion et l'idée nationale. Par exemple, en Israël, et tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il y a une extrême droite très forte qui se cristallise plus en plus avec des idées religieuses. Ce n'était pas toujours comme ça. Autrefois, il y a 50 ans, la religion juive était plutôt très modérée face à l'idée nationale. Et par contre, aujourd'hui, la pire symbiose entre nationalisme et religion s'exprime en Israël partout, dans le monde arabe, islam et nationalisme partout, et aussi dans le monde occidental, les évangélistes en États-Unis, en Brésil par exemple, cette symbiose entre nationalisme et religion chrétienne. Et la semaine dernière, on a vu, après longtemps, et on n'avait pas vu ce phénomène en Italie, que Giorgia parle sur une symbiose entre religion et nationalisme et chauvinisme. Et ça, c'est un phénomène qui m'inquiète beaucoup, avec parallèlement le recul de la gauche laïque partout.
Merci beaucoup. On a parlé de nationalisme. Continuez.
Donc, c'est-à-dire, je crois que nous sommes devant un phénomène qu'on n'a pas expliqué exactement. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours qu'il y avait une symbiose entre religion et nationalisme, comme aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a encore 50 ans, dans le monde arabe, les symbioses entre religion et nationalisme étaient très en marge des phénomènes politiques. Et en Israël aussi. Et maintenant en Italie, parce que l'extrême droite n'était pas tellement religieuse. Et aujourd'hui, Giorgia essaye de synthétiser les deux choses. Et pour moi, c'est assez inquiétant parce que c'est une partie de phénomène très, très large. Et je crois qu'il n'a pas touché encore la France, d'ailleurs, heureusement. Mais je crois que ça se propage aussi en Brésil et ça se propage en Israël d'une façon terrifiante. Voilà.
Oui, alors, Shlomo, je vais embrayer encore sur ce que tu dis là, parce que si on voit ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer, les élections en Suède avec le pseudo-parti démocrate qui est néo-nazi, et puis l'arrivée d'un post-fascisme en Italie, est-ce que, parce qu'en France, souvent, on confond, on n'est pas très clair sur la question, les concepts de fascisme et de nazisme, et tu en traites là aussi dans ton livre. Est-ce que tu peux nous éclairer le public français sur ces concepts pour éviter les confusions?
Oui, donc, si vous voulez, je suis très prudent en face des termes, c'est-à-dire, on a accusé à travers tout le monde à droite de fascisme, surtout la gauche et les communistes ont parfois défini tous les adversaires comme fascistes. Et donc, je suis très prudent. Premièrement, je crois que ce phénomène aujourd'hui en Italie, en Suède, en Israël, ne sont pas fascistes. Ça ne veut dire pas qu'ils sont des phénomènes très gentils, mais je ne les définis pas pour le moment fascistes et surtout pas nazis. Surtout pas nazi. Et pour moi aussi, dans les livres, j'essaie d'expliquer que la gauche a eu tort d'appeler le nazisme fascisme allemand. La différence entre fascisme, il y a pour moi surtout un fascisme italien, et le nazisme est profond. Sous la profondeur, le fascisme italien n'était pas raciste. Il était très nationaliste, mais pas raciste. Et même qu'on reçoit les lois raciales à 38, le fascisme italien n'applique pas vraiment sa vision nationale socialiste allemande. Ça, c'est une chose. Donc, je conseille à tout le monde d'être très, très prudent avec le terme fascisme. D'ailleurs, en France, par exemple, Vichy, pour moi, n'était pas du tout fasciste. Et Vichy était pire que le fascisme italien. un point de vue de raciste et etc.
Bon, je propose que Sidi nous passe l'international et puis on reprend. Sidi, tu nous passes l'international et on reprend tranquillement. Oh là là, la connexion n'est pas toujours facile.
L'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale contre nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte.
Chers auditeurs, nous prions Shlomo Sand de nous excuser pour ces problèmes techniques. On est en direct de Tel Aviv, on est un peu loin, donc toutes nos excuses. Et donc après l'international, que nous n'avons pas l'habitude de passer dans cette émission, mais finalement c'est bien agréable, je propose que Shlomo reprenne son propos, encore avec toutes nos excuses.
Donc je voulais vous dire à propos d'international, comme chanson, comme hymne, et aujourd'hui... Au début de ce siècle, on voit que le monde des affaires, le capitalisme, savent beaucoup mieux de coordonner ses intérêts sur le plan mondial, international. Et par contre, les oppositions, si c'est des mouvements prolétariens ou des mouvements de contestation sociale divers, ils n'arrivent pas à s'internationaliser. C'est-à-dire, une des faiblesses de la gauche, c'est l'incapacité d'agir sur le plan plus large que le plan national. Je ne crois pas, surtout pas aujourd'hui, qu'on peut progresser dans la lutte sociale, dans la lutte pour le climat et pour les autres luttes, pour la paix par exemple, seulement sur le niveau national, et il faut réinventer, si vous voulez, les hymnes l'international.
Oui, merci beaucoup.
Il faut les réinventer à Gobi, peut-être avec des autres propos et des autres mots, je voulais dire. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, on reprend notre conversation sur, sur les... On reprend notre conversation autour du colonialisme et de la gauche. Et donc, on en était arrivé à parler de...
Allô ?
On en était arrivé à parler de l'Italie, de la Suède et l'Israël. Allô ? Nous en étions arrivés à parler
Il y a un problème.
Il y a un problème encore ?
Je n'ai pas entendu clairement.
Voilà. Nous reprenons la conversation. Hein, où nous en étions avant la coupure, donc autour de la Suède, de l'Italie, d'Israël et des mouvements fascistes, racistes. Enfin, on en était sur la nécessité que vous nous donniez d'être clair sur nos définitions. On continue là-dessus ?
Je crois que la future est toujours nouvelle, c'est-à-dire les choses qui peuvent arriver aujourd'hui en Europe peuvent être pires que le fascisme. Je n'exagère pas, parce que je crois qu'on ne se répète pas. Le fascisme, c'est un phénomène dans l'histoire qui ne s'est pas répété. Par contre, la définition d'extrême droite raciste, c'est quelque chose de très actuel, et pas seulement en Israël, et pas seulement en Suède, et pas seulement en Italie, mais aussi en France, aussi en Grande-Bretagne, etc., et en États-Unis. Donc, si vous voulez, la lutte contre le racisme, et le nationalisme doit être, à mon avis, affiché à toutes et essaye des transformations sociales. Et je crois donc, s'il y a une chance que cette gauche faible et battue pourrait remonter, ce sera seulement sur le plan international et pas national. On ne pourra pas vraiment améliorer en profondeur la situation des classes sociales défavorisées sur le plan national, ça c'est mon avis. Voilà.
Merci Shlomo. Donc, je propose que Émilie...
Rivaliser avec l'extrême droite sur le niveau national, je ne crois pas que c'est la route. Et cesser de chanter l'international et choisir seulement chanter les Marseillaises n'est pas une vraie réponse à la montée de l'extrême droite. Voilà.
Oui, on est d'accord. Je propose qu'Émilie nous lise la fin de votre livre, le dernier paragraphe, et ensuite j'aimerais, je vous laisse vous poser la question, êtes-vous optimiste ou pessimiste ? Donc Émilie va nous lire le dernier paragraphe de votre livre.
Et dans tout cela, qu'en est-il de la gauche exténuée ? On raconte que Galilée, brisé par l'Inquisition, après avoir avoué s'être trompé dans ses réflexions sur la course de la planète autour du Soleil, ne put s'empêcher, en sortant du tribunal, de s'écrier « Et pourtant, elle tourne !» Pessimistes de l'intelligence comme optimistes de la volonté sont invités à adopter cette affirmation, même s'il n'est pas certain qu'elle ait jamais été effectivement prononcée.
Alors Shlomo, êtes-vous optimiste ou pessimiste ?
Je vais répondre comme dans la dernière phrase, parce que c'est bien de Romain Rolland, d'ailleurs, qui a dit qu'il est optimiste, et c'est Gramsci qui a appris de Romain Rolland, il a dit qu'il est optimiste dans le cœur et pessimiste dans le cerveau. Et en disant ça, je voulais dire que je suis sur beaucoup de niveaux très pessimiste en face de ce phénomène de montée d'extrême droite, de racisme, etc. Mais par contre, je crois que les volontés fait aussi sa part dans l'action de moi-même et des gens autour de moi. Donc, une chose importante, je ne suis pas fataliste. Je crois que les choses sont données pour nous d'agir. Donc, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste. Peut-être je suis un peu pessimiste, je suis un peu optimiste, mais surtout pas fataliste. Voilà.
Et alors je continue, mais là c'est la question méchante. Mais et par rapport à la situation entre Israël et la Palestine, ce conflit qui dure depuis tant de décennies, comment vous voyez l'avenir ?
Ah, ici je suis plutôt très pessimiste, parce que 55 ans, Israël occupe une autre peuple, autre population, Et le monde occidental ne réagit pas, ne force pas Israël de se tirer. Donc j'ai perdu l'espoir qu'il y aura des États palestiniens aujourd'hui. Et je crois qu'il y aura des catastrophes avant qu'on arrive à un compromis historique qui doit s'exprimer dans un État binational. On ne peut pas séparer les deux peuples. Donc, il faut, ceux qui n'arrivent pas à partager ce pays doivent apprendre de partager les souverainetés sur ce pays. Et c'est la raison que j'écris maintenant un nouveau livre sur la question du binationalisme dans l'histoire d'Israël et Palestine.
De gens qui vivent loin, même si nous sommes beaucoup à Marseille à avoir été cueillir les olives en Palestine, comment vous qui devez fréquenter des Palestiniens, des étudiants, des jeunes, je sais pas, comment vous voyez cette jeune génération, comment vous voyez les choses évoluer?
Et d'un côté, je vois dans le... Premièrement, je suis très déçu par les autorités palestiniennes actuelles, oui.
Oui.
Qui, pour moi, c'est une sorte de collaboration avec les plus grands. Et par contre, la jeunesse palestinienne est très agitée, c'est-à-dire qu'il est actif et il résiste avec tous ces pauvres moyens qu'ils ont. La chose qui m'inquiète, évidemment, que la plupart d'eux ne savent pas, n'arrivent pas à développer une lutte civique parallèle à des résistances, c'est-à-dire élargir les luttes civiques et juridiques. Vous comprenez?
Oui.
Et je voulais qu'il prenne plus en plus. Je suis pour, comme je dis, un État binational, que la citoyenneté sera pour tout le monde. Et je voudrais que le Palestinien sera citoyen de cet État binational exactement comme moi. Mais pour cela, il faut plus en plus développer des luttes sociales et juridiques. Et Israël a très peur de cette lutte civique et non militaristes, je crois. Ils ont peur de ça plus que les luttes armées, qui est très, très faible, évidemment. Donc, je crois que le fait que le ministère de la Défense israélienne, il y a quelques mois, a fermé toute l'organisation civique et juridique qui lutte contre l'occupation et contre la dominance israélienne, montre peut-être qu'il faut plus en plus... mettre tous les efforts dans les luttes civiques pour les droits égaux et pour les droits de l'homme. Oui, ce monde occidental libéral qui parle sur les droits de l'homme, s'inquiète sur les droits de l'homme, ne pense pas sur les droits de l'homme en Palestine.
Bien sûr. Et sur, voilà. Je voulais vous demander aussi, quand le mouvement, par exemple, des prisonniers actuels de grève de la faim, là, enfin, autour de la prison administrative, est-ce que vous placez cela dans les luttes pour les droits civiques? Comment vous vous placez?
Oui, justement. Vous savez que les minutes que quelqu'un tourne la violence contre son corps, même cette lutte, si vous voulez, à la fois, c'est une résistance à la fois violente, mais avec les buts civiques et juridiques. Mmh. Et autour de cette grève de faim, sous ça, il y a des luttes juridiques. Donc je dis, bon, je ne suis pas un conseiller, je ne me trouve pas et dans une situation de donner trop de conseils aux Palestiniens. C'est la dernière chose. Mais je dis qu'Israël a perdu une lutte large, civique, contre cette situation qui rappelle plus en plus la situation de l'apartheid.
Merci Shlomo. Et Shlomo, et la jeunesse israélienne, moi je vous ai terminé sur cette question d'optimisme et de pessimisme, et c'est pour ça que j'insiste. Et cette jeunesse israélienne, vous la sentez comment? Vous qui avez eu des étudiants, sûrement beaucoup, et beaucoup pensé avec eux.
Vous savez, en général, ils ne sont pas plus méchants que les autres étudiants dans le monde. Sauf une chose, l'apathie. Les non-volontés de s'engager, les non-intérêts de comprendre la situation politique. Et ça m'inquiète beaucoup. Ce n'est pas seulement un phénomène israélien, c'est-à-dire cette situation que certaines jeunesses ne veut pas attendre sur la politique. Toute chose est trop générale, trop généraux pour eux. Et les aliénés, c'est-à-dire ils sont aliénés avec tous les problèmes politiques. Parce qu'il y a quelque chose dans la politique actuelle, je crois, qui fait qu'ils ne peuvent pas se rapprocher. Donc, comme je répète, ils ne sont pas pires que les autres jeunesses dans le monde. Ils sont apathiques, ils sont fous des choses qui se passent dans le territoire.
Oui. Et alors, nous avons, bon, parce qu'on a un écho d'information, des échos autour des luttes des femmes palestiniennes. Et je me demandais, en Israël, la question des luttes des femmes, est-ce que c'est quelque chose qui nous dirige vers de l'optimisme ou bien est-ce que c'est dans ces parties de gauche? Ouais.
Comme j'ai parlé à un espoir que les luttes civiques va se développer plus en plus, je crois que les femmes dans les luttes civiques peuvent avoir des rôles beaucoup plus importants que les luttes armées. Et vous savez, dans tous les mouvements nationaux, les luttes armées ont fait une préférence des hommes, c'est-à-dire les combattants étaient des hommes, plutôt. Et je crois que dans les luttes civiques, comme on voit aujourd'hui en Iran, par exemple, vous comprenez? Donc, les femmes palestiniennes vont prendre de plus en plus une place importante de cette lutte. Et si vous voulez, je voudrais qu'une des premières ministres palestiniennes dans cet État binational sera une femme. Vous savez que dans le monde arabe, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le pouvoir. Je crois que le seul ministre dans le monde arabe était en Irak à 58. Qui est un ministre féminin. Mais c'est le seul cas, je crois, dans le monde arabe, une chose qui m'attriste beaucoup. Donc, j'espère beaucoup l'ouverture plus en plus, la solidarité du monde entier avec les luttes civiques des Palestiniens. Et je suis sûr qu'à ce moment, les femmes vont être les vrais, comment dire, dirigeants de cette mouvement.
Merci, Soumou. Je voulais vous demander encore, je profite de vous avoir au téléphone, à la fin, quand vous avez fini d'écrire ce livre, et c'était quoi votre sentiment? Parce que c'est un travail immense que vous avez fait. Vous avez été chercher dans tous les coins du monde, dans l'histoire, sur 2 siècles. C'était quoi, quand vous avez fermé, quand vous avez mis le point final, c'était quoi votre sentiment à vous?
Très mélancolique, comme j'explique. Ce n'est pas un appel de lutte. Je voulais réfléchir, être honnête avec moi-même et avec les lecteurs et dire voilà, est-ce que ce n'est pas quelque chose de terminé dans les grands mythes d'égalité qui naissent, si vous voulez, déjà dans le 17e siècle et 18e siècle et 19e siècle? Est-ce que nous ne sommes pas dans le vent de certains reculs de cette chose que Voltaire a écrit, que Tocqueville a écrit, et surtout Marx et Proudhon. Donc, à la fin, je suis mélancolique et je dis que, par exemple, tant que les classes, les nouvelles classes salariales de high-tech, etc., ne se solidarisent pas avec les autres salariés plus bas, si l'idée des blocs historiques ne va pas se cristalliser une fois de plus, et qu'une chance qu'il y aura, que la gauche va progresser dans le monde occidental et aussi hors de l'Occident. C'est-à-dire créer un bloc historique entre les écologistes, les classes, si vous voulez, prolétariens et les classes salariées de haut niveau. S'il n'y aura pas un nouveau bloc historique, on aura aussi en France une Georgia, que vous connaissez le nom français partout.
Oui. Malheureusement, voilà. Oui.
Donc, je suis mélancolique. Comment dire, je ne suis pas chef de parti, je ne sais pas mobiliser des soutiens, mais je voudrais à la fois provoquer, aider à moi-même et à des autres lecteurs pour réfléchir sur le destin de la gauche au début de cette siècle.
Bon, bah alors merci Shlomo. On ne peut qu'encourager nos auditeurs à lire cette histoire de la gauche mondiale. On ne peut que vous remercier. On ne peut que serrer les pouces pour que vous nous proposiez bientôt la suite de vos réflexions. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs de Radio Galère. Et toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques. On fera mieux la prochaine fois. Bonne semaine à tous.
Et merci. Merci beaucoup à vous. Bye.
Show.